Bonsoir, merci Antoine Maret, bonsoir à tous. La malnutrition touche aujourd'hui plus de 850 millions d'individus, dont 96% vivent dans les grandes zones en développement, et tout montre que ce chiffre n'est pas prêt de diminuer. L'augmentation de la demande concernant les produits alimentaires, conjuguée à la spéculation boursière sur les matières premières, a engendré cette année une vague d'émeutes de la faim dans de nombreux pays. Le Maroc, l'Ouzbékistan, le Yémen, la Mauritanie, le Sénégal, le Bangladesh et j'en passe, la liste compte une bonne quarantaine de pays. Jacques Chirac écrivait au mois d'avril dans le journal Le Monde son inquiétude et appelait à la solidarité internationale. L'autosuffisance alimentaire est le premier des défis à relever pour les pays en développement, disait-il. L'agriculture vivrière doit être réhabilitée face au caractère inédit de la crise que nous vivons. La communauté internationale n'a d'autre choix que celui de l'imagination et de la solidarité, concluait l'ancien président de la République. En effet, combattre la faim, ce n'est pas seulement soigner et nourrir les plus malnutris. C'est aussi soutenir et développer les agricultures vivrières, empêcher la folle envolée du prix des matières premières, affronter le réchauffement climatique en déployant de nouvelles techniques agricoles. Quelles sont les véritables raisons de la crise alimentaire actuelle? Pourrons-nous nourrir les 10 milliards d'individus que nous serons bientôt? Quelle révolution agricole faudra-t-il opérer pour y parvenir? De la crise alimentaire aux émeutes de la faim, c'est le sujet de Contre-Expertise. Pour en débattre avec nous ce soir, Christian Troubert, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie, administrateur d'Action contre la faim, auteur de « Les nouvelles famines des catastrophes pas si naturelles » aux éditions Autrement, parues l'année dernière, Gilles Hirzel, représentant de la FAO en France, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, Daniel Mahon, professeur de géochimie à l'Université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence et auteur de « L'épuisement de la Terre ». L'enjeu du 21e siècle, paru chez Odile Jacobs au début de cette année. Et enfin, par téléphone, Philippe Chalmin, économiste spécialiste du marché des matières premières, professeur à Dauphine. Il est directeur de la société Cyclope, qui a publié au mois de mai son rapport annuel Cyclope 2008, les marchés mondiaux, stupeur et tremblement. Bonsoir à tous, messieurs. Alors, je vais commencer peut-être avec vous, Christian Troubert. Vous avez publié l'an passé, je le disais, « Les nouvelles famines des catastrophes pas si naturelles ». Marcel Ruffin, qui est médecin, écrivain et président d'honneur d'Action contre la faim, a écrit la préface de votre livre. Et la première phrase tombe vraiment comme un coup près. « La faim n'est plus à la mode, elle est pourtant d'actualité ». Alors, vous pensez que les famines ne provoquent plus aujourd'hui l'émotion qu'elles pouvaient provoquer dans le passé? L'opinion s'habitue finalement à la famine et perd sa capacité à se révolter?
Jean-Christophe Ruffin, que vous évoquez à l'instant, qui est ambassadeur de France à Dakar, mais qui est aussi un familier de l'humanitaire, a écrit cette préface avant qu'on parle des émeutes de la faim. Mais c'est bien ça, le premier point. C'est que la faim était à la mode dans les années 60, le bol de riz, l'Inde, tout ça, ça parlait aux Français. Et puis après, eh bien, il faut attendre de décennies en décennies qu'il y ait une énorme crise alimentaire, qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui soient touchées par une crise de malnutrition aiguë pour qu'on se réveille. Et puis après, on se rendort. Et on a eu les émeutes de la faim au printemps dernier. Alors on a vu à ce moment-là tout le monde s'interroger à nouveau sur les causes de la malnutrition sur notre planète. Et puis à nouveau, l'été est là et tout le monde s'endort.
Sauf nous qui sommes là quand même pour rappeler quand même que la faim, la famine, ça existe encore, c'est pas passé.
Je vous remercie de remettre ce débat à l'ordre du jour dans la torpeur estivale, parce qu'il est effectivement capital pour l'humanité.
Daniel Mahon, vous avez écrit, donc je le disais, un livre qui a suscité pas mal de réactions cette année, mais peut-être pas suffisamment. Alors, on va en reparler encore. L'épuisement de la Terre, l'enjeu du 21e siècle. Pour vous, la grande menace pour les hommes est moins le réchauffement climatique que l'épuisement des sols. Daniel Nahon.
Ben, écoutez, de toutes les façons, les sols contribuent fortement et beaucoup plus qu'on ne croit au réchauffement climatique. Ça, c'est un premier point. Et vous savez que la faim ne pourra être comprise que dans un... C'est une équation complexe. Donc, tout va se tenir avec des tas de rétroactions. Donc, il faut essayer de voir l'ensemble du problème. Alors, beaucoup a été déjà dit sur la faim. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'essentiel n'a pas été dit. C'est-à-dire la ressource, l'eau et le sol. Or, il faut savoir que d'ici 2025, ce sont ces deux éléments qui vont limiter la production alimentaire. Voilà, donc c'est important de le savoir.
Philippe Chalmin, vous êtes au téléphone avec nous. Vous dirigez, je le disais, la société Cyclope, cycle et orientation des produits et des échanges, qui est spécialisée dans l'analyse des marchés mondiaux des matières premières. Tous les ans, elle publie un rapport qui dissèque l'ensemble des marchés. Celui de cette année est sous-titré « Stupeur et tremblement ». Vous avez été stupéfait par la montée du prix des matières premières.
Non, disons que la référence « Stupeur et tremblement », c'était stupeur sur la crise des subprimes, la crise financière, et tremblement du fait de la flambée des prix de l'ensemble des matières premières et la prise de conscience, effectivement, que le temps du monde fini commençait, comme disait Valérie, c'est-à-dire qu'en matière d'énergie, en matière de minéral et surtout en matière agricole, nous avions largement touché nos limites. Et donc je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre pour dire que c'est peut-être assez important qu'en 2008, enfin, nous ayons pris conscience, et quand je dis nous, c'est l'opinion publique mondiale, que le problème majeur de notre planète au XXIe siècle sera encore, et comme toujours dans les siècles passés, celui tout simplement de nourrir les hommes.
Merci. Gilles Hirzel, donc je le disais tout à l'heure, vous êtes le représentant de la FAO en France, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. En 2000, l'ONU s'était engagée à réduire de moitié la population qui souffre de la faim par rapport au chiffre de 90. On est aujourd'hui en 2008, donc quasiment à mi-parcours. On est dans les temps, Gilles Hirzel ?
Non, vous voyez bien que non. Et l'ensemble du système des Nations Unies a pris conscience avec ses États membres, mais certainement ses États membres plus tard que le système des Nations Unies, de la situation, de l'importance et de l'urgence d'une réaction durable par rapport aux politiques menées jusqu'à présent, notamment en termes d'investissement dans l'agriculture, en particulier dans les pays en développement. Alors investissement promu par les gouvernements de ces pays-là, proprement dit, c'est-à-dire en gros on a une part du budget national de beaucoup de pays en développement qui dépasse rarement les 10% pour la part de l'agriculture, alors que celle-ci représente plus de 80% des capacités de production économique immédiate, y compris pour les populations les plus pauvres. Par ailleurs, l'aide publique au développement dédiée à l'agriculture est passée d'en gros 17% dans les années 80 à 5% dans les années en 2006. Et donc c'est un secteur qui est complètement à reconstruire. Il faut réinvestir massivement dans le secteur agricole au sens large, comprenant également le secteur de la pêche et le secteur des forêts.
Philippe Chalmin, je propose qu'on en vienne tout de suite aux différentes raisons qui ont conduit finalement à cette augmentation extrêmement brutale des matières premières. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit tableau de ces différentes raisons,
Philippe Chalmin ? Alors, vous avez les raisons, je dirais, strictement conjoncturelles. Les raisons strictement conjoncturelles, ce furent en particulier deux sécheresses de suite très graves en Australie. Or, l'Australie est un grand exportateur mondial, en particulier de blé. Ce fut ensuite une climatologie médiocre en Méditerranée et en mer Noire, qui a amené un pays comme l'Ukraine à cesser ses exportations au mois de juillet 2007. Et donc, on a eu ensuite un ensemble et une prise de conscience d'une situation déficitaire. En réalité, au-delà des strictes raisons conjoncturelles de court terme, il faut être conscient que sur les 7 dernières campagnes, 6 avaient été déficitaires, je parle bien entendu des céréales, blé, céréales secondaires et riz. Et donc, en réalité, nous vivions déjà sur nos réserves depuis un certain temps. Et puis, si vous voulez, une raison peut-être encore plus profonde, ce que nous payons aujourd'hui, et c'est ce qui a été dit un petit peu par le premier intervenant, c'est que pendant 20 ans, nous n'avons eu que des prix qui ne cessaient que décliner, nous n'avons vécu dans l'illusion de l'abondance, et effectivement, il n'y a eu aucun investissement, il n'y a eu aucune préoccupation sur les problématiques agricoles. Il faut se rendre compte, et pour situer à nos auditeurs, un pays importateur du tiers-monde, payer son blé, coûter fret, c'est-à-dire livré dans le port où il devait être débarqué, payer son blé il y y a 3 ou 4 ans aux alentours de 120 dollars la tonne. Ce printemps, il a pu le payer 500 dollars la tonne, car non seulement le prix du blé a flambé, mais aussi le prix du fret.
Vous disiez finalement que depuis le début des années 70, le prix du maïs et du blé avait globalement baissé, c'est ce que vous disiez?
Il faut remarquer d'ailleurs que à l'heure actuelle, en valeur réelle, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, nous sommes à des niveaux de prix qui sont 30 à 40% inférieurs à ceux que nous avions atteints lors de la dernière grande flambée au début des années 70, l'époque où l'on parlait de l'arme alimentaire, etc. Alors autant, par rapport à cette période, le pétrole est beaucoup plus cher en valeur réelle, les minerais et métaux aussi. Par contre, en agriculture, eh bien, nous sommes encore à des niveaux de prix qui sont inférieurs à ceux du début des années 70, des moments d'ailleurs où nous tenions à peu près les mêmes discours qu'aujourd'hui. Souvenez-vous, c'était halte à la croissance, et qui nous disait que le monde ne serait pas capable de se nourrir à la fin du siècle, et il parlait là du 20e siècle.
Philippe Chalmin, vous n'avez pas du tout parlé de la spéculation, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte dans ce...
La spéculation, c'est de l'écume sur la vague. Il y a toujours eu de la spéculation en matière agricole, c'est même dans l'agriculture que les premiers marchés dérivés, les premiers outils financiers ont été inventés pour permettre aux opérateurs de couvrir leurs risques. Donc la spéculation, elle ne change rigoureusement rien. Elle rajoute peut-être un peu de volatilité, mais pas énormément. Il suffit d'ailleurs de comparer cette année deux marchés, le marché du blé et le marché du riz. Le blé est coté à Chicago. Il y a effectivement de la spéculation financière et le prix du blé cette année s'est baladé entre 6 et 12 dollars le boisseau, puisque c'est ainsi que le blé est coté à Chicago. Prenons maintenant le riz. Pour le riz, il n'y a pas de marché financier. Le riz, il y a uniquement un marché physique, la cotation de référence étant le riz FOB à Bangkok. Eh bien, le prix du riz est passé de 250 à 1000 dollars la tonne. Donc quand on dit la spéculation, c'est simplement pour essayer de trouver, parce qu'on veut toujours trouver des responsables, mais c'est nous qui sommes les responsables. Les spéculateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement mis à jour une situation de déséquilibre, et quand le marché est monté, quand on a été à 400 dollars la tonne de blé, à 1000 dollars la tonne de riz, qu'est-ce que le marché disait? Attention, donc, nous allons manquer.
La spéculation, en fait, aggrave la crise, mais elle n'est pas du tout une des causes.
Je ne dirais même pas qu'elle aggrave la crise. La spéculation a même l'immense mérite, par le biais de marchés qui sont relativement transparents, de pouvoir à un moment donné disposer d'un prix qui est effectivement un prix d'équilibre entre offre et demande. Le marché du blé, avec sa spéculation financière, fonctionne infiniment mieux que le marché du riz, pour lequel simplement trouver quel est le bon prix de référence est déjà quelque chose de relativement difficile.
D'accord, Christian Troubet, vous êtes d'accord?
Moi, j'aurais envie de dire que derrière la froideur des marchés, la froideur des mécanismes mondiaux des marchés agricoles, il y a quand même au cœur de tout ça le vrai scandale de la faim, qui est le scandale de la pauvreté. Aujourd'hui, finalement, on meurt de faim sur notre planète, non pas tant de ne pas pouvoir accéder à la nourriture, mais en fait de ne pas pouvoir l'acheter. Le gros problème, il est là à mes yeux. C'est un naufrage des paysanneries du Sud auquel on assiste aujourd'hui. Et les paysans du Niger ou du Mali, c'est pas tant de ne pas avoir les céréales, mais c'est de ne pas pouvoir les acheter. On est en fait derrière tout ça dans un paradoxe qui est que plus de 80% des gens qui aujourd'hui ont faim sur notre planète sont eux-mêmes des petits paysans. Et ces petits paysans, donc, n'ont plus du tout d'autosuffisance possible. Je crois qu'on paye une politique qui a été déjà évoquée tout à l'heure, qui est le fait que depuis une vingtaine d'années, on a encouragé, à travers les organismes tels que la Banque mondiale, le FMI, ou d'autres organismes...
Elle disait dans ce rapport qu'elle avait tout simplement oublié l'agriculture. Je rappelle que 75% de la population pauvre vit en milieu rural, et seulement 4% de l'aide publique va justement à l'agriculture dans ces pays en voie de développement.
On a oublié tout ça.
Et pourquoi on l'a oublié, Sajid Hirzel?
Mais écoutez, certainement que le secteur agricole n'a pas dû être considéré comme étant un secteur porteur pour les investisseurs dont nous parlions tout à l'heure, surtout pas dans les pays en développement. Et de par tout simplement le manque d'infrastructures rurales, la difficulté à irriguer éventuellement, apporter l'eau nécessaire à la croissance des plantes, la difficulté à investir dans la recherche dans les pays en développement, qui permettrait l'amélioration des semences, la difficulté à installer des systèmes de stockage pour conserver la production, parce qu'il ne s'agit pas seulement de produire, il s'agit de conserver, de transformer et de commercialiser. Et ça, c'est extrêmement difficile dans un pays en développement, quand effectivement, rien n'est fait pour attirer ni les capitaux publics, ni les capitaux privés.
Vous pensez que ça va changer à l'avenir? Maintenant, on a pris vraiment conscience des choses et ça risque de changer?
Écoutez,
parce que le rapport date de 2007, hein, c'est l'année dernière.
On a assisté à un sursaut de l'opinion publique internationale et des dirigeants. On a pu le mesurer notamment dans le cadre du sommet mondial qui a été organisé à Rome par la FAO. Ce sursaut a donné la possibilité aux États membres, aux institutions internationales monétaires, à l'Union européenne, de montrer leur volonté de réagir.
Mais il y a quand même pas mal de critiques sur ce sommet-là, parce qu'il y a des choses qui ont été adoptées, mais pas grand-chose sur les solutions à long terme, sur le contrôle des échanges commerciaux. Les pays sont restés assez évasifs sur les subventions agricoles, les agrocarburants.
Qui dépendent directement de l'OMC, pas de la FAO. Donc il ne faut pas demander à la FAO de régler des problèmes qui ne sont pas de son ressort.
Donc vous avez été plutôt satisfait de ce sommet.
Disons que ça a été l'occasion pour les dirigeants de ce monde d'exprimer leur intérêt pour l'agriculture, et ça, c'était très nouveau.
Daniel Nahon.
Oui, écoutez, moi j'ai écouté un petit peu les résultats de ce congrès, puis à la fin, je me suis dit, je pense que les gens n'ont pas vraiment compris l'enjeu. Aujourd'hui, on voit un piétinement de toute la production. Alors, il y a des scientifiques qui se disent, tiens, c'est par manque d'eau, on ajoute de l'eau, ça ne produit pas plus. On rajoute des engrais, ça ne produit pas plus. On se rend compte finalement que c'est sûrement le carbone qui dans le sol manque. Alors il faut se pencher vers le sol. Et lorsqu'on se penche vers le sol, on est un peu inquiet. Inquiet parce que le sol, il faut le savoir, est une ressource limitée. Sur 13,5 milliards d'hectares que constituent les terres émergées, il y a à peu près 11 milliards d'hectares de sol. Et c'est sur 11 milliards d'hectares de sol, il n'y a simplement que, en gros, 22% de terres arables, qui sont en gros à 12% aujourd'hui utilisées. Donc on a un petit peu de marge. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté, on est en train de détruire ces sols. Et il y a 0,5% des terres arables qui disparaissent chaque année. 0,5% par urbanisation, par maltraitance, par mauvaise irrigation, par érosion, déforestation, etc.
Ça veut dire que globalement, on perd de la surface cultivable.
Mais bien sûr.
Et malgré la marge, on peut...
Et non seulement cela, mais en plus, quand vous irriguez, parce que vous avez besoin d'irriguer là-dessus, hein, il faut savoir aujourd'hui que la charge humaine par hectare de terre est de 800 mètres par habitant de terre arable. Mais avec ce qu'on dépense en France et ce qu'on mange, il nous faut 1400 mètres carrés. Et aux États-Unis, c'est 4000 mètres carrés. Donc ça, c'est pour le sol. Alors maintenant, pour l'eau, pourquoi l'eau? Parce que pour produire un kilo de protéines animales, il faut à peu près 3 à 10 fois son poids en protéines végétales. Donc il faut de la terre pour les protéines végétales. Et pour produire un kilo de protéines végétales, il faut à peu près 1000 à 15 000 fois son poids en eau. Ce qui veut dire que quand vous consommez un kilo de viande, vous avez consommé à peu près 40 000 litres d'eau. Quand vous achetez quelques chemises en coton, un kilo de coton par exemple, c'est 4 000 litres d'eau. Voilà, donc il y a un intérêt par rapport aux ressources naturelles qu'il faut regarder de près.
Gilles Hirzel, vous vouliez réagir, Christian Troubert.
Et dans ce contexte-là, comme vous le disiez tout à l'heure, aux environs de 2050, il aura fallu multiplier par deux la production agricole mondiale, avec une population qui aura pratiquement doublé dans les pays en développement. Alors que pour l'instant, rien n'est en place, ou trop peu, pour que ces pays-là puissent véritablement faire repartir leur agriculture. Donc c'est l'espoir de ce moment-là quand même. Parce que je reviens quand même sur les résultats du sommet. Il y a eu des intentions, il y a eu des annonces de contributions volontaires de la part d'État, de la part d'institutions, en faveur de l'agriculture, là, immédiatement. Bravo. Ceci étant dit, c'est totalement insuffisant. La FAO a évalué les sommes nécessaires à investir dans le secteur agricole au sens large, comme je le disais tout à l'heure, environ 30 milliards de dollars par an. À l'issue du sommet, nous, en gros, nous avions des annonces de contribution de 25 milliards. Mais il faut recommencer tous les ans. Nous n'avons pas investi pendant 30 ans. Nous estimons qu'il va falloir réinvestir pendant au moins une trentaine d'années à ce niveau-là. C'est à ce prix-là, certainement, et en intégrant les progrès scientifiques et techniques dont nous parlions tout de suite quant à l'usage de l'eau, à l'usage des sols, à l'usage des semences, etc., que nous pourrons y arriver.
On va y revenir. Christian Troubet, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir sur le fait qu'il faut évidemment impérativement, dans les trois décennies qui viennent, repenser complètement l'agriculture mondiale. Il faut la repenser déjà, comme le disait M. Naron à l'instant, pour préserver les sols et en même temps faire qu'elle soit deux fois plus productive. Donc autrement dit, c'est une double révolution verte qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois plus productiviste et en même temps plus respectueuse de l'environnement. C'est déjà un énorme défi. Ce que je vois derrière, c'est qu'on a aussi des tas d'inconnus. On ne sait pas dans 30 ans, avec la crise énergétique, s'il ne faudra pas, au contraire, avoir des politiques plus volontaristes sur l'utilisation des sols pour des énergies de substitution. C'est le débat qu'on peut avoir d'ores et déjà sur les agrocarburants. On ne sait pas non plus de quelle façon, dans 30 ans, on continuera à se nourrir, sur quelle base de végétaux ou animaux. Donc il y a beaucoup d'inconnus, et pourtant c'est des questions qu'il faut régler dès aujourd'hui.
Alors, vous parliez des biocarburants, justement. De grandes quantités de production agricole vont dorénavant à la production, justement, de biocarburants. Alors, le gouvernement américain avait estimé que ça n'avait pas beaucoup d'impact sur l'augmentation des prix alimentaires. Il parlait de 3%, alors que la Banque mondiale était beaucoup plus pessimiste à ce sujet. Quel est l'impact réel de la demande en biocarburant, d'après vous, Christian Troubet?
Moi, je suis étonné en tant que journaliste quand je vois effectivement ce débat sur les agrocarburants, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'échappent et je suis heureux d'avoir des spécialistes à mes côtés ce soir qui vont nous l'expliquer. Mais on a mis un peu tout sur le dos des agrocarburants. On a dit par exemple que la famine dans le monde, c'était la faute aux agrocarburants. Mais si je regarde de près, il n'y a pas d'agrocarburants en Afrique. La majorité de la production des agrocarburants, c'est encore aux États-Unis. Alors j'ai du mal, moi, à faire ce lien entre ce qu'on me dit sur les agrocarburants et la famine. J'ai du mal. Alors j'ai un spécialiste à côté de moi.
Alors, je vais juste poser la question à Philippe Chalmin et ensuite je donnerai la parole à Daniel Naon parce que son avis m'intéresse aussi en tant que scientifique, évidemment. Mais le spécialiste des matières premières, Philippe Chalmin, que nous dit-il au sujet de l'impact des biocarburants sur évidemment la crise alimentaire, Philippe Chalmin?
C'est un impact réel, mais soyons honnêtes, c'est un impact simplement secondaire. 2 milliards de tonnes de céréales produites grossièrement dans le monde, 100 millions de tonnes qui vont passer en agrocarburant. Et sur ces 100 millions de tonnes, il y a 80 millions de tonnes de maïs aux États-Unis. C'est un programme totalement aberrant et délirant, à la fois du point de vue financier et dont la rentabilité énergétique est encore à démontrer. Simplement, c'est une manière intelligente pour le gouvernement américain de soutenir l'agriculture sans passer sous les fourches codines de l'OMC. Donc, je dirais que de ce point de vue-là, les agrocarburants ont eu une responsabilité dans la hausse des prix du maïs, indirectement dans ceux du soja, et donc indirectement aussi dans l'équilibre des prix entre toutes les céréales. Par contre, soyons honnêtes, le riz qui vit sa petite vie un peu à part, il n'y a pas d'agrocarburant, et c'est probablement une des céréales dont le prix a le plus flambé. Il me semble de toute façon, parce que je viens d'entendre tout ce qui a été dit, l'enjeu est tel que l'on se rendra bien vite compte que produire des agrocarburants à partir de plantes alimentaires est plus ou moins une hérésie contre l'esprit. Et que, ça va probablement permettre l'accélération du passage à ce qu'on appelle les biocarburants de deuxième génération, ceux qui seront faits directement à partir de biomasse, c'est-à-dire de déchets agricoles ou forestiers. Mais de toute façon, ce n'est pas là que l'on trouvera non plus la solution au problème énergétique mondial. Mais il y a quand même un autre point sur lequel j'aurais voulu revenir. L'un d'entre vous a dit, la faim touche de plus en plus. Mais il a rajouté la pauvreté. N'oublions pas que ce que nous avons vu, c'était pas des émeutes, enfin c'était des émeutes de la faim, oui, mais c'était avant tout des émeutes de la pauvreté. Et c'était la plupart du temps des émeutes de la malgouvernance. Les pays qui ont été touchés sont des pays qui, dans un certain nombre de cas, devraient sans aucun problème atteindre leur autosuffisance alimentaire. Simplement, bien, ce sont les villes qui ont du mal à se nourrir, ce sont les villes qui font les révolutions, et c'est par le biais, je dirais, du consommateur urbain que l'on a un petit peu trop tendance à analyser ce problème de la faim et de la pauvreté, alors que, comme vous l'avez dit, le gros de ceux qui souffrent de malnutrition, ce sont les paysans pauvres.
D'accord, Sylvain. Alors, on va revenir dans l'ordre. D'abord sur les biocarburants, peut-être avec vous, Daniel Nahon, et après, on reviendra sur le visage des émeutiers. Daniel Nahon, sur ces biocarburants.
Oui. Alors, sur les biocarburants, il faut être clair. Pourquoi les pays occidentaux s'intéressent aux biocarburants ou les pays en développement? Tout simplement parce qu'ils veulent gagner leur indépendance énergétique. Quand vous regardez les pays européens, en particulier la France, elle dépend aujourd'hui à 80% des énergies des autres pays. Et si elle ne fait rien, dans moins de 30 ans, ce sera à 95%. Pareil pour les États-Unis. Donc les gens essayent de réfléchir et se penchent sur les biocarburants. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas vu qu'ils mettaient en concurrence les denrées alimentaires. Donc c'est un jeu direct. C'est un jeu direct et je vais vous donner quelques chiffres. Par exemple, la France dépense 98 millions de tonnes de pétrole. Si on tient ce qu'on doit faire en 2010 pour le rajout de biocarburants au carburant, au combustible fossile, on va économiser quelques millions de tonnes équivalent pétrole. Donc c'est de la rigolade. Et ce que disait à l'instant notre ami de Paris Dauphine, c'est que...
Philippe Chalmin,
absolument. C'est que... On ne peut pas continuer comme ça. On ne va pas pouvoir, sans arrêt, se servir de denrées alimentaires pour faire du biocarburant.
Et pourtant, on a l'impression que c'est quand même le début du nouvel ère.
Oui,
nous explique que
mais prenons,
c'est une alternative
alors,
intéressante, et puis vous nous dites là,
maïs,
faut pas s'imposer.
Maïs, blé, betterave, c'est quand même, enlever ça, il faut nourrir du bétail. Il y a des gens qui commencent, des pays comme le Brésil, font 3 repas par jour. Donc, ils ont besoin de viande. S'ils ont besoin de viande, il faut du tourteau, des fourrages. Pareil en Chine, pareil en Inde, pareil dans des tas de pays. Donc, il faut réaliser qu'il y a aussi un appel de ce côté-là à la production, à l'augmentation de production. Donc, il y a d'autres solutions. Prenez la canne à sucre.
Attendez, juste ce qu'on comprenne bien. Selon vous, il faut carrément arrêter les biocarburants. Il faut les limiter ou les arrêter
pas. Écoutez, le Danemark et la Suède... La Suède et la Hollande ont décidé d'acheter la matière première au Brésil. C'est de la canne à sucre. Alors avec la canne à sucre, vous produisez 6800 litres d'éthanol à l'hectare. Avec le blé, c'est 1700 litres à l'hectare. Donc avec le colza, c'est encore moins, 1200 litres. Alors si vous prenez la canne à sucre, et en plus les Brésiliens travaillent dessus au point de vue des OGM, la modification, l'adaptation génétique. Ils vont produire des cannes à sucre avec plus de sucre. Et pour la deuxième génération, les bagasses de lignocellulose vont être utilisées également. C'est-à-dire on va multiplier par 2 la production. Et les cannes à sucre s'adaptent à des sols. D'abord, les animaux ne les mangent pas. Et nous, si on mange moins de sucre, ce serait très bien. Donc pourquoi ne pas utiliser ça? Pourquoi ne pas acheter la matière première au lieu de prendre des denrées alimentaires comme on fait aux États-Unis ou comme on fait en Europe?
Merci Daniel Nahon. Gilles Hirzel, tout à l'heure, Philippe Chalmin disait que les émeutiers du printemps dernier n'étaient pas les malnutris finalement, mais les pauvres. Est-ce qu'on peut peut-être recadrer un peu ça, dire quel est le visage de l'émeutier du printemps dernier?
Effectivement, ce sont des citadins, mais ça ne nous permet pas d'oublier que depuis des années et des années, ce sont les ruraux qui souffrent de faim en masse, mais compte tenu de leur dispersion, de leur difficulté à se retrouver, à se faire entendre, ils ne se font pas entendre. Donc tout l'intérêt, si j'ose dire, de ce qui s'est passé cette année, c'est qu'effectivement, les citadins ont été atteints de plein fouet directement par la hausse des prix alimentaires.
Et qui ne sont pas forcément les plus pauvres.
Et qui sont certainement pas les plus aisés, mais néanmoins pas les plus pauvres de ces pays.
Christian Troubet, vous êtes d'accord?
Oui, je suis d'accord avec Gilles Herzel. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de drame silencieux qui est celui des campagnes. Et puis il y a effectivement le révélateur qui est celui des bidonvilles, ou même de la petite classe moyenne urbaine des pays du tiers-monde, qui souvent d'ailleurs se déclenchent parce qu'ils ont des habitudes alimentaires qui sont désormais différentes. Ils sont en ville, donc ils mangent du pain. Eh bien effectivement, prenons le cas de l'Égypte. L'Égypte est un pays de gros mangeurs de pain, et les émeutes que nous avons vues au Caire ou à Alexandrie étaient liées justement à la pénurie de pain. Donc il y a aussi une corrélation souvent entre les changements d'habitude alimentaire et le fait de devoir, pour s'alimenter, eh bien, devoir acheter des produits plus élaborés, et donc on retombe sur le problème après des revenus. Et donc si on n'a pas de revenus, eh bien on sort dans la rue parce qu'on n'a plus de pain.
Et comment est-ce qu'on peut expliquer que ce soit en Afrique que la crise a été la plus importante? Je m'explique. Par exemple, au Cameroun, où on a une activité agricole qui est plutôt bonne, eh bien le Cameroun a été très fortement touché par cette crise. Comment est-ce qu'on peut expliquer quel pays va être touché plus que l'autre, alors que voilà, il y a une bonne activité africaine. Je prenais comme exemple le Cameroun, c'est le cas, Gilles Herzel.
Écoutez, d'abord, de nombreux pays africains sont importateurs nets de nourriture, ce qui fait que quand la nourriture augmente de 100%, compte tenu de l'augmentation du fret, etc., et de l'évolution des prix dont nous parlions tout à l'heure, il est évident qu'au niveau des consommateurs, c'est insoutenable. Regardez l'incidence que c'est l'augmentation du blé a pu avoir en Europe sur le prix de la baguette. Ça n'a rien à voir. Certes, il y a eu une augmentation, mais qui n'a rien à voir avec du 100%, voire plus, pour certaines denrées.
Donc, ça veut dire concrètement qu'en Afrique, il ne suffit pas d'avoir une bonne activité agricole, ça ne va pas protéger de la famine, Daniel Nahon.
Écoutez, on ne peut pas quand même gérer politiquement ces pays, hein. Il faut les laisser. Écoutez, moi je crois qu'on ne réglera pas le problème d'Afrique, en tous les cas, que par une assistance. Voilà. C'est la croissance qui va faire le développement de ces pays. Donc la croissance ne doit pas s'arrêter. Mais on ne fera pas la croissance dans ces pays en leur envoyant des engrais, des pesticides, parce qu'on va finir d'épuiser leur sol. J'entendais dans une émission radio à France Culture, on disait « oui, mais la production agricole de l'Europe est 10 fois celle de l'Afrique ». Peut-être, mais les sols sont 10 fois moins riches en Afrique. Vous ne pouvez pas comparer les sols africains, la ressource sol en Afrique par rapport à la ressource européenne. Ça n'a rien à voir. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Alors, ils ont des sols pauvres, ils ont des richesses, des forêts. On peut faire des cultures sous forêt. Il faut, comme disait quelqu'un, commencer à spécialiser. Il faut que ces gens puissent vendre des choses que nous ne savons pas faire. Voilà. Il n'y a pas que la ressource, il n'y a pas que le politique, il y a le social. Il va falloir changer la mesure de la performance sociale qui n'est bâtie que sur la production, sur le PIB. Il va falloir donner un prix à la forêt, un prix à l'eau, un prix au sol, un prix à l'air. Et c'est donc tout un bouleversement culturel qu'il va falloir aller. Non pas dans les 30 ou 40 ans qui arrivent, parce que si on ne règle pas le problème dans les 2 décennies qui arrivent là, maintenant, dans les 20 ans, c'est la période cruciale, on aura de graves ennuis, même en Europe.
Christian Troubet, Action contre la faim a publié récemment un rapport suite à une étude sur la situation des populations de la capitale du Libéria. Elle lance un cri d'alarme pour que la communauté internationale se mobilise là-dessus. Qu'est-ce qui doit être fait d'abord à court terme pour répondre à l'urgence au Libéria?
Oui, la question de l'urgence précisément, parce qu'on a évoqué tous les problèmes de fond et qui doivent être traités, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il y a chaque jour 26 000 personnes qui meurent de faim sur la planète, qui sont donc dans des phases de situation de ce qu'on appelle de malnutrition sévère aiguë. Et ça, c'est le rôle des ONG et des institutions internationales de traiter, de savoir soigner pour sortir ces enfants, parce que c'est majoritairement des enfants, de ces crises de malnutrition sévère aiguë. Alors c'est le travail, par exemple, d'Action contre la faim. Donc là, on est dans l'aide d'urgence. Alors l'aide d'urgence, ça consiste en plusieurs choses. Ça consiste déjà à ouvrir des centres donc de renutrition, d'utiliser des produits nutritionnels qui aujourd'hui ont fait énormément progrès depuis une dizaine d'années, qui sont des produits très performants. On sauve aujourd'hui beaucoup plus d'enfants qu'on en sauvait il y a 10 ans. Donc il y a une urgence. Et le cas du Libéria est intéressant parce que c'est un pays qui a eu un mal fou à sortir de 20 ans de guerre.
Qui est à peu près équilibré aujourd'hui.
Commencer à retrouver des des équilibres de sécurité alimentaire modestes.
Et qui là risque de basculer à nouveau à cause de la famine.
Tout à fait. On savait déjà depuis le printemps que le mois de septembre et octobre va être dramatique à Morovia et dans la région, parce que justement ces populations qui sont des réfugiés de guerre, des déplacés, des gens qui commençaient à retrouver un semblant d'équilibre de vie, sont touchés par les hausses des prix et donc retombent dans des situations de malnutrition aiguë.
Général.
Et en complément de cela, la FAO promeut également les activités de réhabilitation d'urgence de l'agriculture, en relève de l'aide alimentaire, pour faire en sorte que l'aide alimentaire dure le moins longtemps possible, par ses effets à la fois perturbateurs et par son coût, à la fois humain, etc. Et donc, cette aide d'urgence à la réhabilitation de l'agriculture, ben, ça passe malgré tout. Pour la prochaine campagne, pour les campagnes suivantes, et pas dans 10 ans, tout de suite, là, maintenant, nous le faisons en ce moment, par la distribution de semences, par la distribution d'outils, par la distribution d'engrais, parce que c'est ce qui va quand même permettre, dans de nombreux pays, d'augmenter rapidement, tout en faisant, bien évidemment, en faisant en sorte que nous soyons, dans le cadre d'une agriculture durable, dans le cadre éventuellement d'une agriculture aussi de conservation. Mais nous sommes, malgré tout, là dans une phase où il faut aller vite pour assurer les prochaines campagnes. Alors, vite et bien, nous sommes d'accord, il faut vite et avec précaution. Mais tous les crédits que j'annonçais tout à l'heure, dont il avait été question pendant le sommet mondial de l'alimentation, servent à ça en ce moment, et sachant que tous les crédits ne sont pas encore arrivés, bien évidemment.
Christian Troubert.
Oui, j'ajouterais, parce que Gérard Lizal est peut-être pas le mieux placé pour le dire, qu'on est quand même là aussi dans un paradoxe. On a des chefs d'État de la planète qui se réunissent à Rome et qui font des beaux discours et qui promettent des millions de dollars. Et ensuite, dans la réalité, la crise passe et puis il ne se passe rien. Alors que Gérard Lizal rappelle que l'urgence est là, qu'il faut effectivement déjà des fonds pour la situation d'aujourd'hui, mais il faut aussi des fonds pour, dans la décennie, remettre des agriculteurs à niveau. Et dans le même temps, on voit que la majorité des États du Nord ne mettent pas la main au portefeuille et que les budgets de la FAO sont toujours aussi maigres qu'une peau de chagrin.
Alors, France Culture, 18h52, contre-expertise autour de la crise alimentaire. Christian Troubert, rédacteur en chef de l'hebdomadaire La Vie. Gilles Herzel, représentant de la FAO en France. Daniel Nang, professeur de géochimie. Et Philippe Chalmin, qui est économiste, à qui je voudrais poser la prochaine question, à savoir, je voudrais lui demander, certains gouvernements, pour enrayer la hausse des prix des matières premières, ont finalement limité leur exportation agricole. Qu'est-ce que ça a eu, ça, comme conséquence sur les petits producteurs, Philippe Chalmin?
Bon, ça a eu un certain impact sur les prix. Il y a eu des moments où, effectivement, quelques États ont mis en place des embargos à l'exportation. Ça a été le cas de l'Ukraine pour le blé, de la Russie un peu plus tard. Ça a été le cas de l'Inde, de l'Égypte pour le riz, etc. Et incontestablement, ça a joué. Mais je dirais que ça n'est pas l'essentiel. Moi, je voulais réagir à ce qui a été dit plus tôt. Le fond du problème, et prenons le cas africain parce que c'est peut-être le plus évident, le fond du problème, c'est de réhabiliter les politiques agricoles. Parce que je pense que, même sans parler de semences nouvelles, de révolution verte, etc., il y a énormément de choses à faire en termes d'organisations agricoles. Serions-nous capables de mettre en place dans les pays africains l'équivalent de ce qu'a été la politique agricole commune pour l'Europe en 1958, c'est-à-dire des systèmes de garantie de prix aux producteurs. Un agriculteur, sous toutes les latitudes, c'est un type intelligent. Si on lui donne une garantie de prix, si on lui donne une garantie d'achat avec des silos, avec des points d'achat, il est évident qu'il rentrera dans une logique marchande et qu'il développera sa production. C'est ce qui s'est passé en France à partir de 1958. Alors, évidemment, ce sont des politiques difficiles à mener. Ce sont aussi des politiques coûteuses. Parce que si vous garantissez un prix élevé aux producteurs, bah, ça veut dire que vous êtes capable, et il faut qu'il y ait quelqu'un qui le paye ce prix. Or, bien souvent, dans les villes, le consommateur n'a pas d'argent. Et c'est ce consommateur-là qui fait les révolutions. Donc, et vous ne pouvez pas demander aux consommateurs de payer aux producteurs un prix rémunérateur. Alors, ce que l'on fait dans nombre de pays, on met en place des subventions. Mais ces subventions, elles sont payées par les contribuables. Or, dans ces pays, il n'y a pas de contribuables. Alors, c'est là où l'on en revient à l'aide internationale, mais une aide internationale qui ne soit pas un investissement, qui soit vraiment une aide internationale. Et je suis désolé de dire que, de ce point de vue-là, certes, ça n'a pas fait partie des priorités de la Banque mondiale, du FMI, etc., mais il y a quand même une agence internationale qui a largement failli. Je suis désolé de le dire, c'est la FAO. La FAO qui a été incapable sur les 30 dernières années d'assumer son rôle et de tirer des sonnettes d'alarme.
Bon, Gilles Wirzel, je suis obligé de vous donner la parole, mais voilà. Essayez de faire court parce qu'après je voudrais poser une vraie question à Daniel Nahon.
Oui, en cas de crise, il est toujours de bon aloi de trouver un bouc émissaire. Alors pourquoi pas la FAO? Non, c'est pas sérieux. Regardons un petit peu quelle est l'attitude effectivement, quelle a été l'attitude des États membres au fil des années au sein de la FAO pour bien montrer que on augmentait le nombre d'activités de la FAO tout en diminuant son budget. Donc là, bon, je pense que. Mais par contre, le fait que la FAO travaille avec l'ensemble du système des Nations Unies dans le cadre d'une cellule de crise, une équipe spéciale qui a été mise en œuvre par le secrétaire général, M. Ban Ki-moon, nous permet d'augurer sur la réaction, la réactivité sur le terrain de l'ensemble de ces équipes.
D'accord. Il y a vraiment une question que je souhaiterais vous poser, Daniel Nahon, parce que dans quelques décennies, on l'a dit, il va falloir être en capacité de nourrir, 10 milliards de personnes. Et selon vous, l'une des possibilités qui semble vraiment être une vraie solution pour répondre à ce défi, c'est l'utilisation des plantes transgéniques. Le génie génétique est la seule voie d'espoir pour l'écosystème, aussi en ce qu'il contribue à exploiter plus rationnellement l'eau et le sol. Ça, c'est ce que vous dites dans votre livre, Daniel Nahon. Donc l'avenir de l'agriculture, ce sont les plantes transgéniques, Daniel Nahon.
Écoutez, c'est un des problèmes, je vous ai dit, il était complexe, il est politique, il est économique, il est social, mais il est aussi scientifique et technologique. Et dans le scientifique et technologique, il faut faire un vrai effort de guerre. Pour la gestion de l'eau, la gestion des engrais, il faut avoir des plantes qui sachent gérer une goutte d'eau, une goutte d'engrais, une goutte de pesticides. On ne peut plus se permettre des gabegies qui nous mettent les sols en péril. Il faut augmenter les surfaces cultivables face au réchauffement de la planète. Parce que quand on a 0,75 degrés en moyenne, ça veut dire que la terre va réchauffer plus vite que l'eau. Hein. Vous courez sur la plage, sur le sable chaud pour aller vous rafraîchir. C'est la même énergie qui est reçue. Mais l'un chauffe beaucoup plus vite. Donc les terres, nous allons avoir un vrai problème. Et ce problème ne pourra être résolu qu'avec une adaptation de certaines plantes sur les sols salés, sur les sols gelés, sur les sols arides, voilà.
Donc c'est inexorable, les plantes transgéniques, c'est inexorable. Bah,
écoutez, c'est ce que font beaucoup. Moi, je crois que oui, c'est inexorable. Et on est en train de se tromper de combat. Et je ne défends pas en disant ça les grandes industries qui essayent de s'approprier tous les marchés en faisant des pressions sur des hommes politiques pour que les citoyens achètent. Ça, c'est absolument répréhensible et ça dessert le progrès scientifique. Mais en revanche, la science et les sauts technologiques majeurs dont je parle se trouvent là.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Christian Troubert, rédacteur en chef de La Vie, administrateur de ASF, Gilles Wirzel, représentant de la FAO en France. Merci à vous, Daniel Nahon, professeur de géochimie à l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence. Et par téléphone, Philippe Chalmin, économiste spécialiste du marché des matières premières, professeur à Dauphine. Merci à tous, messieurs. Vous pouvez nous écrire sur le site internet de l'émission www.franceculture.com, site sur lequel vous pourrez retrouver les références des ouvrages de nos invités. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, réécouter et télécharger Contre-Expertise sur votre baladeur pour une plus grande liberté encore. Cette émission vous était proposée par Florian Delorme avec la collaboration de Seam Boutata et Lucille Como à la technique aujourd'hui. Florent Layani à la réalisation, Véronique Lamandour. Demain, dans les matins d'été, Xavier Delaporte recevra en première partie Marianne Dujarrier pour parler du consommateur comme coproducteur, puis Alain Antil sera l'invité de la deuxième partie des matins, consacré à la Mauritanie. Quant à nous, nous nous retrouvons demain à 18h15 pour un nouveau numéro de Contre-Expertise. qui sera consacré, lui, au financement et à la représentativité des syndicats. Il est 19h, vous êtes sur France Culture, à demain.